Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré.
Pour ce deuxième bloc des Héros Anonymes, on découvre encore un organisme qu'on ne connaissait pas cette semaine. Alors là, on est complètement ailleurs qu'en première partie, mais on est toujours dans l'univers des enfants. Donc, les enfants qui bougent et les enfants qui pourraient bouger un petit peu plus. Et c'est la Fondation Champion pour la vie qui a été fondée par David Arsenault, un ex-champion de taekwondo, très impliqué dans le monde du hockey aussi. Alors, c'est un plaisir de le rencontrer. Bonjour, David.
Bonjour, Chantal. Merci pour m'avoir ici.
Et donc, les Fondation Champion pour la vie, comment c'est né?
C'est né avec, premièrement, une passion de ma part de jouer avec les enfants. J'enseigne le taekwondo depuis 32 ans et j'ai toujours aimé enseigner les enfants. Ça fait partie de trois fois semaine. Je suis toujours avec des enfants de 4 ans et plus et on explore le mouvement. Dans ma carrière, j'ai été formé comme kinésiologue. J'étais athlète aussi, comme vous l'avez mentionné. Et donc, je suis allé vers la performance sportive pour ma propre performance. Et ensuite, j'ai commencé à entraîner des athlètes à haut niveau. Et c'était par chance, quelqu'un m'a approché, c'était Kent Hughes, le directeur général des Canadiens de Montréal, qui était un agent. Et puis, il a dit, est-ce que tu pourrais entraîner quelques athlètes que je représente à Montréal? Donc, j'ai entraîné ces athlètes-là. Il y avait Vincent Lecavalier, Mathieu Lombardi, Louis Leblanc. Ben, beaucoup d'athlètes que le peuple montréalais connaît. Et puis, donc, ça faisait mon bonheur parce que je pouvais transférer ma passion pour le mouvement, le sport, comment bien bouger, sauter, lever des charges. Je faisais tout plein d'entraînements. Donc, je faisais leur entraînement à sec quand ils étaient hors leur saison de hockey. Et puis, en 2006, j'étais très proche de mes frères. Mon frère Marc est décédé du cancer. Il était malade pendant 3 ans. Une personne en santé. Et lui avait des enfants de 8, 6 et 3 ans. Et moi, mes enfants avaient 3 et 2 ans. Et à l'époque, c'était le summum de mon centre d'entraînement qui s'appelait Pain Station. Et puis, c'était vraiment...
Pain,
oui,
comme
pain.
Douleur.
Douleur, pas pour créer de la douleur, mais pour aller dans nos zones d'inconfort pour pousser et voir est-ce que nos défis, est-ce qu'on peut les relever et pousser à travers certaines peurs, certaines... douleurs ou défis qu'on a pour devenir plus fort, soit de mental, physiquement ou émotionnel. Donc, c'était ça la mission, mais c'est un moment où j'ai une grosse prise de conscience personnelle et je me disais, OK, moi, ma mission de vie, c'est d'être proche de ma famille, c'est d'être proche de...
C'est ça que ça a déclenché le décès de votre frère.
Oui, oui, absolument, parce que aussi, à l'époque, je voyageais beaucoup. J'entraînais les athlètes entre le mois de mai et septembre. Et entre septembre et le mois de mai, juin, j'entraînais un particulier. Puis je voyageais partout dans le monde pour aider cette personne à maintenir leur routine d'exercice.
Et là, vous avez 3 neveux nièces qui n'ont plus leur papa. Et comment vous avez fait le lien de dire... On va amener les enfants à bouger plus.
Oui. Après le décès de mon frère, on a fait un tournoi de golf pour ramasser des sous. Et on a donné à notre association locale, Dorval...
En lien avec la prévention du cancer ou la recherche?
Il y avait pour les enfants, pour qu'ils bougent davantage et qu'ils font du sport à Dorval, on a donné un don de 5 000. Puis on a donné 10 000 au centre palliatif de l'ouest de l'île où mon frère est décédé. Et j'ai dit, je veux continuer à faire quelque chose à l'honneur de mon frère. Et puis ma famille a dit, c'est trop dur pour nous. C'est trop, s'il faut qu'on revienne à toutes les années, qu'on parle de Marc et tout. Donc j'ai dit, OK, c'est parfait, je respecte ça. Mais j'ai dit, OK, donc d'abord, je vais faire quelque chose
Pour la vie.
Oui, pour la vie.
Pour la vie, tout simplement.
Exactement.
Pour rester toujours en mouvement, parce que tant qu'on est en mouvement, on est en vie. Donc, c'est une manière d'honorer son legs, mais sans être dans la tristesse pour votre famille.
Exactement. Donc, j'ai créé un centre qui aidait les enfants à bouger. Je pouvais amener mes enfants, j'amenais les enfants de mon frère. Et ça, ça a éventuellement développé dans un programme qui s'appelait « Champion pour la vie ». Donc, j'ai rencontré un ami de mon frère qui est revenu de Toronto. Il vivait là. Il habitait avec nous dans notre quartier. Et puis, il a dit, lui, c'est un avocat. Et il a dit, laisse-moi t'aider avec ton œuvre. Peut-être on peut créer quelque chose de plus gros. Donc, de petit à petit, on a commencé un projet pilote en 2013. Et ça l'a abouti à créer une fondation plus tard. Ça a commencé avec 6 écoles. C'est allé à 16, à 36 écoles. Et la Fondation des Canadiens pour l'enfance nous a téléphoné, nous a dit, un peu comme vous nous avez téléphoné comme juste à travers de savoir qui on est. Et puis, ils ont dit, oh, on aimerait venir voir. Ils sont venus voir, ils ont aimé ce qu'ils ont vu. Et on dit, on aimerait vous financer pour vous aider à grandir. Parce qu'on trouve votre mission très belle. Elle s'aligne avec la nôtre qui est
Quand on dit venir voir, là, concrètement, vous parlez d'école, on sait qu'il y a déjà des cours de gymnastique à l'école. Oui. Donc, comment vous vous inscrivez dans ce partenariat-là avec, par exemple, les enseignants qui font déjà de l'éducation physique?
Oui.
Donc, parce que je suis assez curieuse de voir comment vous travaillez ensemble.
Absolument. Donc, en n'étant pas prof d'éducation physique moi-même, je me suis entouré d'enseignants d'éducation physique au Québec. Et puis, 3 en particulier. Et ces personnes-là m'ont aidé à mettre en place un programme qui serait complémentaire au ce que désire le système d'éducation physique au Québec, qui est de développer les habiletés motrices. Ensuite, être social et comment on s'organise autour du mouvement, comment on partage, qu'on inclut tout le monde et que ça fait partie de nos saines habitudes de vie. Donc, on a développé un programme qui serait un programme parascolaire qui vivrait dans les écoles défavorisées. Donc, on allait chercher des sous pour donner un plus-value à ces enfants, une expérience de plus où les enfants peut-être peuvent pas s'inscrire au hockey ou des activités, ils n'ont pas les sous, ils n'ont pas les ressources.
Vous êtes allé nicher plus chez des enfants qui n'ont peut-être pas les capacités ou qui sont peut-être moins exposés à des situations de vie ou des familles où on bouge naturellement.
Oui, exactement. Exactement.
Et là, vous, d'entrée de jeu, dans la présentation, j'ai dit littératie physique et moi-même, en lisant ce terme, je me suis dit, mais de quoi parle-t-on?
Mais si on parle de littératie premièrement, littératie, c'est apprendre les sons, les lettres, les mots. Et puis, chaque mot a une valeur, veut dire quelque chose, représente quelque chose. Quand on met les mots ensemble, on crée une phrase et ultimement, on peut s'exprimer d'une telle manière. Donc, si j'ai un vocabulaire vaste, je vais être capable de m'exprimer comme Molière ou écrire une chanson comme Robert Charlevoix. J'ai même chose de façon, en littératie physique, c'est d'apprendre comment bouger. Ça commence avec des habiletés motrices de base. Donc ça, c'est comme les mots. Puis quand on met ces mots-là ensemble, mais on a des sports, on a des activités juste comme faire une randonnée. Il faut grimper, il faut marcher, il faut
sauter. Donc c'est de déconstruire l'activité en mouvement qui s'enseigne.
Donc, c'est plutôt de donner la base au début pour développer une certaine compétence motrice à la base. Et ensuite, la confiance va venir avec ces compétences-là. Et quand on a une confiance, la motivation s'en vient. Et tout ça vient avec les connaissances du mouvement, de l'environnement. Donc, avec ça, on peut composer comme on veut par la suite. Je ne sais pas quels mots qui vont sortir de ma bouche, mais maintenant, on peut se parler et on peut utiliser les mots qu'on a utilisés juste dans notre langage. Et on compose pour être capable de s'exprimer dans ce monde et d'interpréter ce qui se passe.
Mais mettons qu'on traduit ça, je ne sais pas, pour une partie de volleyball. Oui. Comment ça s'explique, ça se vit, là, concrètement?
Oui, donc, quelqu'un qui veut apprendre le volleyball, premièrement, va avoir un intérêt, va dire, « Ah, c'est quelque chose qui me paraît très bien. J'aime jouer avec les ballons. Mm-hmm. J'aime jouer, j'aime sauter, j'aime courir, j'aime un sport collectif. Mais je ne sais pas faire les mouvements. »
Les manchettes, exactement. Ouais.
Et puis, donc, ils vont essayer. Ils vont demander à quelqu'un, « Est-ce que je peux essayer? » Donc, quelqu'un va leur enseigner. Ils vont commencer à jouer. Ils vont, en autant que... On est dans la zone de délicieuses incertitudes où...
Délicieuses incertitudes.
Oui, oui. C'est, ça veut dire qu'on est assez curieux pour essayer. Mm. On sait que le succès n'est pas garanti, mais on aime ce qu'on est en train de faire. Mm. Et puis, ce n'est pas trop difficile que c'est décourageant, ouais. Et ce n'est pas trop facile que c'est banal.
Mais il n'y a pas le « apprendre à apprendre ». Je vais donner un exemple concret. Je suis allée avec mon neveu et ma sœur la semaine dernière... parce qu'il voulait apprendre à patiner.
Oui.
Et il est devenu rapidement très frustré parce qu'il tombait.
Oui.
Et là, justement, je ne savais pas trop comment réagir à ça. Puis je lui disais, ben pour tout sport, pour toute discipline, tu dois apprendre d'habitude, commencer par apprendre. Oui. De quelle manière, mettons, votre méthode peut faire en sorte là, que j'aurais pu dire... ou faire quelque chose avec mon neveu qui aurait permis de diminuer sa frustration?
Absolument. Même pour un adulte qui apprend à patiner, mm-hmm. on devrait sortir et puis sans être contraint par notre image, comment on paraît autour des autres, on pourrait sortir à quatre pattes. On devrait apprendre de s'asseoir et se mettre debout sur deux lames avant de commencer à avoir l'image que je vais embarquer sur la glace, je vais patiner par en avant, par en arrière, je vais être capable de tourner. Des fois, on se donne l'image qu'on est capable, puis on réalise que non, ça prend des mouvements fondamentaux. Et puis,
on n'a pas pratiqué avant.
Exactement.
Ou qui nous place dans des positions où on pourrait être gêné.
Exactement.
Parce que c'est vrai que mon neveu a dit, c'est la honte.
Oui.
Le fait qu'il est tombé, c'est la honte. Donc, ça implique le regard de quelqu'un d'autre.
Oui. Donc, quand on enseigne à un enfant qui ne sait pas et qui n'a pas la maturité de dire, ça se peut que je tombe, c'est correct, je vais m'asseyer. Et si on ne crée pas cet environnement pour un enfant d'essayer de ne pas avoir, de rater un peu, mais c'est correct, on va essayer encore. Donc, il faut être très sensible au niveau de maturité de chaque enfant. Mm-hmm. Si c'est un enfant de 3 ans, c'est pas la même chose qu'un enfant de 5 ans, de 7 ans, de 12 ans.
Qu'il y en a qui sont plus... qui ont plus de capacité à apprendre. Parce que mon fils aussi, la première fois qu'il a patiné, il s'est fâché.
Oui.
Qu'est-ce qui fait qu'un enfant va se fâcher plus dans ce mouvement, l'apprentissage d'un mouvement?
C'est vraiment leur caractère. Je dirais qu'il y en a qui aiment se fâcher pour être déterminés à persévérer.
Ah, ça donne un peu
c'est ça.
Le feu pour...
Oui, mais il y en a d'autres qui se fâchent au point d'être découragés pour jamais réessayer. Donc, vraiment, il faut créer cet environnement-là où le monde peut explorer eux-mêmes. Tu sais, on parle d'inculquer un certain mode de vie physiquement actif, mais ce n'est pas nous qui allons donner une motivation à une personne. C'est vraiment, il faut que la motivation soit intrinsique. Donc, il faut que la personne soit portée à aller et essayer. Et pour avoir ça, il faut être reconnaissant de qui on est, où on est.
D'avoir des modèles aussi.
Des modèles.
Si nos parents ne bougent pas ou voient ça comme quelque chose de très, très laborieux, alors que si le sport a toujours fait partie de notre vie, dans notre famille, on va peut-être être plus naturellement porté à...
Oui. Mais le sport représente beaucoup de choses. C'est pas juste l'image d'un joueur d'hockey qui est au plus haut niveau. Souvent, ça, c'est le rêve. Mais pour y arriver, ça prend... beaucoup, beaucoup d'heures, ça prend beaucoup de support, ça prend beaucoup de sous. Donc, il faut faire attention à l'image qu'on projette, à qui et comment inculquer cette culture de vouloir bouger. Parce que si je vous lance une balle, c'est un geste incroyable. Je vous donne un objet, une balle, je vous lance une balloune et vous allez la recevoir. Donc, il y a une communication qui passe entre deux personnes. Et à la limite, bien, c'est ça qu'on crée, des expériences où les personnes peuvent explorer, jouer ensemble, partager, apprendre à s'entendre ensemble. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est pas juste le sport. Notre programme est vraiment un programme pour développer des champions pour la vie.
On prend une petite pause, David, puis on va explorer un petit peu davantage tout de suite après.
Merci beaucoup, Chantal.
De retour au Héros Anonyme, nous sommes toujours avec David Arsenault qui a fondé Champions pour la vie. Et là, David, je vous écoutais parler, puis je me dis qu'il y a peut-être des auditeurs qui se demandent, là, moi, mes enfants reviennent de l'école, puis il y a déjà les fameux cubes de Pierre Lavoie. C'est quoi la différence, puis où ça s'inscrit Champions pour la vie par rapport à ces cubes-là?
Mais premièrement, je trouve que le message de Pierre Lavoie et les cubes énergie, c'est génie parce que c'est 4 cubes pour faire 60 minutes d'activité physique par jour. Mm-hmm. Le cube, c'est un concept qu'on peut marcher ou on peut faire du sport d'haute intensité ou on peut s'étirer ou se baigner, se promener. Et ça, on peut le faire avec notre famille ou des amis. Donc, le grand défi, Pierre Lavoie, est ce que représente bouger pour le plaisir, pour la santé, pour la, surtout être bien dans soi-même, je pense que c'est important. Et ça passe le message que bouger, c'est important. Mm-hmm. Et donc, je dirais qu'il n'y a pas de... Si les enfants apprennent à attraper, lancer, courir, sautiller, c'est une façon qu'ils vont être capables de s'exprimer. Donc, nous, on commence vraiment à la base de donner les outils pour bouger. Donc, c'est complémentaire, complètement. Mm-hmm. Donc, ils peuvent faire champion pour la vie et ramasser des cubes énergie. Donc, ils apprennent 2 concepts. Un, bouger avec une certaine capacité, c'est une chose, mais bouger avec un certain une compétence, c'est une autre. Être motivé, et que ça fait partie d'un groupe. Donc, je pense qu'il faut qu'on se donne les moyens pour rendre la société et apprendre à la société qu'il y a plein de façons d'être actif. Et c'est vraiment pour l'épanouissement de la personne. Mm-hmm. Donc, je pense que ce qui nous motive, ça peut être plusieurs raisons.
Oui.
Être fâché ou se sentir en sécurité ou avoir un but qui nous rend vraiment motivé à passer ce but-là.
Ouais. Mettons, si on essaie vraiment, on se ramène peut-être soit sur les bancs d'école ou dans le gymnase, là. Comment vous intervenez concrètement?
Donc,
on parlait de proposer gratuitement votre approche dans plus de 60 écoles de quartiers défavorisés. Oui. Donc, comment ça se manifeste concrètement?
Oui, premièrement, c'est au-dessus de 600 écoles au Québec.
Au-dessus de 600?
Oui, 600, oui.
Ah, OK. Il nous manquait un zéro, on dit?
Cette année, on va toucher, et je suis sûr que c'est plus que 600, on va toucher près des 900 écoles au Canada.
Wow!
Donc, concrètement, on a 4 programmes en ce moment. Mm-hmm. Le premier, c'est un programme Parasco de 20 semaines. Le deuxième, c'est des ressources pour des enseignants d'éducation physique qui sont des professionnels. C'est les meilleurs. Mm-hmm. Point à la ligne. Mais des fois, ils ont besoin d'outils, de ressources. Donc, on a des fiches techniques avec des images, avec des codes QR pour scanner. Ils n'ont pas toujours le temps de développer des choses et on travaille toujours en concert avec nos partenaires pour être capable de leur donner les outils qu'ils ont besoin pour faire avancer la chose. Troisièmement, on a développé en partenariat avec le ministère de l'Éducation du Québec des histoires interactives qui s'appellent Petits Champions.
D'accord.
Donc, ça se fait dans la classe de maternelle pendant les cours, où on raconte des histoires et l'enfant part en aventure et apprend des mouvements, apprend des mots comme détermination, apprend les thématiques sur le cursus scolaire aussi, la notion de compter, un vocabulaire et ainsi de suite. Et le dernier programme, ça s'appelle « Les champions de la récré ». Donc, typiquement, nos programmes, nos trois premiers programmes sont pour les enfants de 4 à 8 ans. Mais là, c'est on va chercher les enfants de 9 à 12 pour être des animateurs dans leur cours de récré pour aider les tout-petits à jouer des jeux et à s'entendre bien ensemble et pour prévenir des choses comme...
Un peu un rôle de médiation? Est-ce qu'il y a un lien avec la... Ben, parce qu'on le sait, c'est souvent dans la cour de récré qu'il y a de l'intimidation aussi, qu'on se pousse. Ou là, malheureusement, on connaît le geste de pousser. Là.
Oui, oui. Et puis, donc, c'est vraiment de rendre cette expérience-là un sens de communauté à l'intérieur de sa cour. Que les enfants qui sont plus vieux, mais ont une responsabilité d'aider à créer un environnement, tu sais, de créer un leg. Dans le fond, ils vont partir pour l'école secondaire. C'est leur école primaire. Tu sais, c'est les enfants qui leur suivent.
Donc, j'entends le frère là, qui parle.
Oui, mon frère qui me parle à travers moi. Et puis moi que je lègue ensuite, parce que c'est ça, de génération en génération. Donc, c'est un programme de leadership. Ça l'enseigne les enfants comment, parler devant les autres. Et puis, si on n'aime pas parler devant les autres, mais on peut organiser le temps, l'espace, l'équipement. Sinon, on peut démontrer les mouvements et les jeux. Sinon, on peut venir encourager les enfants à dire « Bravo, tu fais bien, continue comme ça. » Donc, il y a plusieurs façons qu'on peut être chef d'une mission. Et puis, la mission, vraiment, c'est d'aider les enfants à de jouer de façon sécuritaire, inclusive, et que ça soit un franc jeu.
Parlons de l'inclusion. On a tous là une idée d'un film où on voit le petit garçon qui a peut-être pas les standards là, de corps. Et là, tout à coup, il est le dernier à être choisi dans l'équipe de peu importe. Oui. C'est un classique là, dans les cinémas. Oui. Ça serait quoi votre lecture d'une situation comme ça?
Oui, donc il y a un temps et une place pour ça. Donc, dans un milieu compétitif, c'est sûr qu'il y a... Le repêchage, premier choix, deuxième, troisième. Et puis ça, c'est la vraie vie dans certaines circonstances.
C'est lié aussi à... On a travaillé fort pour arriver à ce résultat-là. Oui. On n'est pas comme à l'école où là, tout le monde devrait bouger. Là.
Et puis, quand on pense à l'éducation physique des années 70, 80, même 90, c'est différent maintenant.
OK, comment ça a évolué?
Oui, ça évolue constamment. Mm-hmm. Et puis maintenant, on est plus connecté que jamais.
Connecté à quoi?
aux médias sociaux. La plateforme la plus utilisée par les enseignants d'éducation physique, c'est Twitter ou c'est X maintenant. Oui. Parce que c'est tellement rapide. Ah, oui. Et puis, ils partagent des données, ils partagent les meilleures pratiques. Donc, tu sais, tout ce qui est inclusion, diversité, équité, ça comprend ce que les enseignants font. Et puis, si on pense de l'éducation physique, c'est vraiment un modèle de la vie. T'sais, tout le monde doit venir ensemble, coopérer ensemble, travailler ensemble pour le but de faire un projet, le but de monter quelque chose qui est soit un jeu ou une activité. Mm-hmm. Donc, on ne peut pas aller chercher ça tout le temps dans les autres classes. T'sais, donc, l'éducation physique joue un rôle primordial. Donc, si on parle de, OK, on va choisir deux capitaines, c'est toujours les mêmes capitaines, puis il est toujours la dernière personne qui est choisie. Là, maintenant, les enseignants d'éducation physique ne font plus ça. Mm. Ils disent, OK, moi, je vais nommer les personnes 1, 2, 1, 2, 1, 2, comme ça. Et les numéros 1 vont aller ici, les numéros 2 vont aller là, et puis on fait deux équipes ensemble. Donc, c'est vraiment, on s'en va loin de la performance.
Parce qu'on amène à ce moment-là l'enseignant à réaliser que c'est pas grave si on ne gagne pas notre partie parce qu'il y a des jeunes qui pourraient dire « Ah, avec Thériault, on perd tout le temps quand c'est lui qui joue avec nous », alors que, dans le fond, on veut juste que tout le monde ait la possibilité de bouger. Mais en même temps, il y a cet instinct-là qui est un peu où on veut gagner. Comment, chez un jeune, on arrive à lui dire « ben je comprends que tu veux gagner, mais c'est important que tout le monde puisse participer, comme on le dit tout le temps. »
Absolument. Ouais. Et puis, à tous les âges. Donc, il faut être vraiment sensible au stade de développement de l'individu. Donc, les enfants qui sont en dessous de l'âge de la raison.
C'est 17 ans d'habitude qu'on...
L'âge de la raison, c'est 8, 9.
Ah, d'accord.
7, 8, 9.
Mon père m'avait 17. Bon.
Non, mais l'âge de la raison dans le sens que si je sais que si je fais un geste, ensuite, ça va produire tel résultat.
D'être capable d'anticiper cette chose.
Exactement. Okay. Oui. Et on ne fait pas ça de façon vraiment générale avant l'âge de 7, 8, 9 ans. Donc, si on commence à dire, OK, on choisit toi pour avoir telle chose et on va équilibrer une équipe à l'âge de 5 ans, les enfants ne comprennent pas ça. Mm-hmm. Donc, les programmes et les structures qu'on crée autour de ces enfants-là, puis c'est vraiment des structures qu'on crée pour leur permettre de s'épanouir. Donc, on va pas trop prescrire des choses. Il faut leur donner le temps d'explorer. Il faut que ces enfants-là développent leur confiance de soi-même. C'est pas nous qui vont inculquer, comme j'ai dit avant, la
passion. Vous parlez de réseaux sociaux. C'est malheureusement une plaie, là, ce qui fait que les jeunes, oui. On dit « bouge pas assez à cause des réseaux sociaux ». Donc, comment on peut les utiliser?
Là, okay. Je vous arrête là parce que moi, c'est des enfants de 4 à 12 ans. Et j'espère
qu'ils ne sont pas encore scotchés comme les ados.
Oui,
d'accord.
Exactement. Puis nous, on veut les scotcher sur le mouvement, le plaisir de bouger, de savoir que si on bouge, bien, on se sent bien avant. Si on va prendre de l'air dehors, t'sais, on se sent bien, on se sent ressourcé. On peut connecter avec nos amis qui sont juste à côté de nous, t'sais, les garçons, les filles et tout ça. Il faut qu'on apprend à vivre ensemble et à jouer ensemble.
Puis effectivement, de faire un sport ensemble, une activité ensemble, apprendre aussi à travailler pour un but commun, pour l'équipe et pas simplement pour ses buts. David, on veut en savoir plus sur la Fondation Champion pour la vie. On va à quel endroit?
Allez à notre site championpourlavie.ca, puis c'est un champion avec un S.
Donc, on fait plusieurs shampoings. Plusieurs champignons.
Ou des champignons.
Oui. Bon, ça attend que ça bouge puis ça grandit.
Exact.
Merci beaucoup. C'est tout pour cet épisode des Héros anonymes. Chantal Doré au micro avec Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessier en régie, Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion technique. Nos épisodes sont disponibles sur notre site internet canalm.vusevoix.com et sur les plateformes de balado-diffusion. Je me retrouve la semaine prochaine. Un grand plaisir, David.
Merci beaucoup, Chantal. C'était formidable.
Alors, en fin de semaine, on bouge. Allez prendre l'air. À très bientôt, tout le monde.
Allez-y.
Oui.